rayon BD dans le chaudron de Goscinny.
Qu'il devenait.
Encore un sanglier, Obélix ?
Oui, mais bien grâce à toi, parce que le premier.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le Rayon BD, le nouveau rendez-vous de France Culture consacré entièrement à la bande dessinée, toute la bande dessinée. Chaque dimanche à ce micro, nous recevrons des auteurs bien sûr, mais aussi des éditeurs, des historiens, des théoriciens pour découvrir avec vous les multiples visages et les multiples usages de la bande dessinée d'hier et d'aujourd'hui. Des plus grands classiques, comme pour cette première, aux tentatives plus contemporaines, plus originales, voire plus bizarres. Et aujourd'hui donc, nous commençons avec la plus grande star de la bande dessinée française, qui fête cette année ses 60 ans, avec dans quelques semaines la sortie d'un nouvel album qui sera tiré à 2 millions d'exemplaires. J'ai bien sûr nommé Astérix. Pour en parler avec nous, l'auteur Catel, qui vient de faire paraître cette semaine chez Grasset le roman des Goscinny, une magnifique biographie de l'un des deux créateurs d'Astérix. Faut-il préciser le nom du second, Albert Uderzo. Bonjour Catel.
Bonjour.
À vos côtés, Christian Stabler, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes illustrateur, scénariste, historien de la bande dessinée. Vous avez publié à la fin de l'année dernière le premier tome de la grande aventure de la bande dessinée aux éditions PLG, une histoire générale et internationale du 9e art, dont le deuxième tome sortira prochainement. Je crois qu'il y aura 3 tomes.
C'est ça, le deuxième sort en janvier, on est en train de le finaliser.
Dans un village gaulois,
assiégé comme il se doit,
il y avait deux Gaulois
qui ne désespéraient pas,
car ils allaient de ce pas
en se tenant par le bras,
livrés de joyeux combats
aux Romains qui étaient là.
Astérix et Obélix avec les voix de Roger Carrel et Jacques Morel. On est au milieu des années 60, Astérix, à cette époque, est tout jeune. Aujourd'hui, il a 60 ans. Il est né en 1959 et je voudrais commencer par cette date, 1959. Le roman des Goscinny que vous avez donc fait paraître cette semaine chez Grasset, Catel, s'arrête en 1959, au moment où naît Astérix. Pourquoi ce choix ? Pourquoi arrêter cette biographie au moment de la naissance d'Astérix ?
Ah ben justement, c'est le début de tout, mais c'est aussi la fin de la première saison, c'est-à-dire une vie assez mouvementée, celle de René Goscinny, qui est un garçon avec des origines polonaises, ukrainiennes, juives, qui naît en France, mais immédiatement qui part avec ses parents en Argentine, et puis ensuite aux États-Unis quand il perdra son père, enfin une vie difficile, romanesque, et il finira par arriver après être allé en Belgique, en France. Et là, il créera Astérix. Donc, c'est très étonnant, ce personnage qui, finalement, n'est pas, a priori, français d'origine, qui devient plus français que français en créant l'emblème de la France, pratiquement, Astérix, comme le coq. C'est, on pense tout de suite, les Gaulois à la France. Et ce Astérix prend vie dans le magazine Pilote, qui a été créé en 1959. Goscinny l'a créé avec une bande de joyeux lurons, et presque par hasard, en fait. Et voilà pourquoi évidemment cet anniversaire est important, il est symbolique.
Christian Stabler, 59, c'est un tournant en effet dans la vie de Goscinny, dans l'histoire de la bande dessinée, française en tout cas en général. 59, c'est une date importante.
Oui, c'est une date importante effectivement, puisque c'est, comme disait Catel, la naissance de Pilote, qui est quand même un hebdomadaire qui a révolutionné la bande dessinée, puisque ça, pour la première fois, on s'adresse à un autre public que les tout-petits et que les enfants. Donc Goscinny et Uderzo avaient l'intention de s'adresser plus aux adolescents, et donc la bande dessinée a évolué grâce à ça. Et bon, en même temps, l'année d'après, il y a Harakiri qui est sorti, qui a aussi renouvelé un peu le genre, mais c'est la même période.
Et puis il y a eu des moments de fusion un petit peu entre Harakiri, qui a été par moments interdit, et Pilote. La bande d'Harakiri est arrivée à Pilote.
Oui, parce qu'il faut savoir qu'avant 59, la bande dessinée était réservée exclusivement pour les enfants.
Tout à fait.
Et éventuellement les illettrés, les idiots. Mais on l'apercevait vraiment comme un art mineur et pour les sous-développer intellectuellement. Mmh. Et lui a vraiment donné ses lettres de noblesse à la bande dessinée, et notamment en créant Pilote.
Alors Astérix paraît donc dans le premier numéro du journal Pilote. Le succès d'Astérix est immédiat, Christian Stabler.
Ah oui, oui, en l'espace de quelques années, le premier album sort en 61 et en 63, je crois, le quatrième ou le cinquième est déjà tiré à près de 600 000 exemplaires, donc ça va très très vite. Ouais.
59, on est aussi un an après l'arrivée, le retour au pouvoir du général de Gaulle, et Goscinny, vous publiez Catel dans votre roman des Goscinny, un certain nombre d'archives, des illustrations de Goscinny, puisqu'on parlera aussi de son talent de dessinateur, mais l'archive de la première page de scénario d'Astérix le Gaulois, et à la première case, on voit la façon dont Goscinny décrit cette première case, des soldats romains marchant en rang, on ne peut voir que leurs jambes comme les Allemands entrant en France, la deuxième case, l'esprit de résistance est invoqué, tout ça résonne un peu avec le retour au pouvoir du général de Gaulle, et on a beaucoup parlé de l'esprit gaulien d'Astérix, de l'esprit de résistance et de la concomitance, et qui était peut-être une des raisons du succès. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous avez ? Comment est-ce que vous avez voulu traiter cette question ?
Alors je pense que René Goscinny détesterait que j'analyse ça, parce que lui-même, il ne voulait absolument pas qu'on fasse un lien avec l'histoire. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses, évidemment, beaucoup d'analyses faites là-dessus. On ne peut pas s'empêcher de penser évidemment aux Allemands, voire aux nazis qui débarquent, le village de résistants, bien sûr. En plus, évidemment, quand on connaît son histoire, c'est d'autant plus frappant. Évidemment, il a la moitié de sa famille, même les trois quarts sont partis dans les camps de concentration. Lui, il a eu cette chance d'être à l'autre bout du monde et donc d'éviter ça, mais il n'a pas évité la souffrance, la douleur de perdre cette famille. Et avec sa pudeur naturelle, on n'a jamais vraiment parlé, mais il fallait bien que ça sorte quelque part. Et c'est évident, et surtout le premier Astérix, le Gaulois, avec cette première image, que consciemment ou inconsciemment, c'était là. Mais lui se réclamait, René Goscinny, d'être un amuseur, même pas un humoriste, parce que dans la position d'humoriste, il y avait quelque chose de politique. Il maniait des idées, lui il voulait être juste un amuseur et être le plus léger possible, se marrer, comme il disait, faire marrer les autres. Mais en réalité, bien évidemment qu'il était habité de tout ça, et ça transparaît, ça transpire, c'est évident.
Alors la naissance d'un Gaulois, puisque c'est le sous-titre de votre roman des Goscinny, la naissance d'un Gaulois, c'est le Gaulois, c'est Astérix, c'est un peu aussi Goscinny. En fait, c'est amusant. Alors, aussi de savoir qu'il est devenu français.
Mais voilà, c'est ça.
15
c'est
jours double, avant sa naissance.
C'est à double tranchant ce titre. Ça tombe bien parce que moi, je voulais d'abord mettre la naissance d'Astérix. Mais comme la marque appartient à Hachette, ben on n'en fait pas ce qu'on veut. On ne peut pas l'utiliser. Je ne peux même pas dessiner Astérix sur la couverture. Pour le dessin, c'est quand même très gênant. Donc j'ai trouvé le moyen de quand même suggérer Astérix en faisant le petit casque avec les ailes. Et après, bien sûr, j'ai remplacé le nom d'Astérix et tout naturellement est venu le Gaulois. Et en fait, je trouve ce titre finalement meilleur parce qu'il est plus universel. Il raconte l'histoire de Goscinny lui-même, René, qui était justement d'origine de l'Europe de l'Est, juive, et qui est devenu le plus français des Français. Mais il a vraiment acquis cette nationalité, cette identité française pour les valeurs, et les valeurs notamment du général de Gaulle qu'il défendait. Son père aussi faisait partie du comité de Gaulle dans les années 40. Et voilà, c'est évident que Goscinny incarne ce Gaulois parfaitement et donc les valeurs et l'identité française de cette époque-là.
Christian Stabler, dans l'histoire de la réception d'Astérix, ce contexte dont Goscinny voulait un peu s'affranchir est important tout de même.
Ah oui, bien sûr, oui. Oui, il a le fait de travailler sur une histoire qui remonte dans le temps et qui situe un petit village qui résiste à l'envahisseur. Effectivement, c'est clair qu'il a pris une thématique qui était assez universelle et en même temps qui s'est accaparé et avec l'aide du Derzo, ils en ont fait quelque chose qui a plu tout de suite et immédiatement au grand public.
Voilà. Mais ce n'était pas un travail qu'il avait prémédité du tout, Absolument, c'est ça qui est important. C'est qu'il faut savoir qu'au départ, le journal pilote s'est créé avec leurs amis, avec aussi justement la radio Luxembourg qui les a vraiment propulsés, parce qu'à l'époque c'était un média extrêmement important, ça l'est toujours, mais il avait un pouvoir de diffusion inouï, et donc ils ont monté avec cette radio ce journal sur les ondes, qui est de la publicité, et il fallait vite remplir quelques pages, il fallait de toute façon remplir beaucoup de pages, mais là il manquait quelques pages et ils ont décidé de faire le roman de Renard en bande dessinée. Et puis pas de bol, ils se sont rendus compte en le faisant que quelqu'un d'autre venait déjà de le faire ailleurs. Donc au dernier moment, ils ont décidé de trouver une autre idée. Ils sont allés dans le HLM de Uderzo à Bobigny et là, en une après-midi, ils ont créé Astérix en cherchant une idée comme ça. Alors ils ont commencé par la préhistoire, ils ont remonté un peu le fil de l'histoire et puis les Gaulois, la première leçon d'histoire que tout le monde connaît. Donc Uderzo quand même, qui est d'origine italienne, disait oui, je l'ai appris à l'école. Et Goscinny disait moi aussi en Argentine, c'est le premier truc que j'ai appris sur la France. Donc on n'y connaît pas grand-chose, mais allons-y sur les Gaulois. Et puis en 10 minutes, avec un pastis, ça rigolait autour de la table et l'idée est montée petit à petit. Donc, je pense justement, on en parlait, que inconsciemment, tout ça a été en lui, mais d'aucune manière, consciemment, il a voulu monter un projet qui allait fonctionner et faire des millions de ventes. C'était pas du tout quelque chose de construit. C'était quelque chose d'inné.
Ah, c'est clair qu'ils n'ont pas cherché le succès à tout prix. Ils ont continué dans la lancée de ce qu'ils faisaient déjà avec Oompa-Pa dans Tintin, les deux personnages, un personnage intelligent et puis un personnage un peu plus rustre et plus direct. On les retrouve dans Astérix et Obélix, évidemment.
On retrouve même ça dans le travail de Dante Quinterno, qui est un grand dessinateur, auteur argentin, que lisait Goscinny Petit, où il y avait un indien, Patoruzzu, qui était un indien malin, et qui avait une soupe magique pour être fort, et son petit frère qui était très gros et très fort naturellement. Donc tout ça était déjà en germe, finalement, dans son enfance. Et moi, en me rendant en Argentine, j'ai eu la chance de tomber sur une exposition de cet auteur. Et alors là, tout à coup, évidemment, Oompa-Pa est dans la suite logique. Et Astérix, tout ça ne vient pas par hasard.
Alors Catel, ces dernières années, on vous a beaucoup connu pour des grosses biographies que vous avez écrites et dessinées. Parfois avec Joselu Boquet au scénario, Olympe de Gouges, Kiki de Montparnasse, Joséphine Baker. Vous êtes en train de préparer, je crois, une biographie d'Alice Guy, qui est une des pionnières méconnues du cinéma, avec toujours ce souci de sortir un peu de l'ombre des figures de femmes méconnues. Comment est-ce qu'on passe de ces femmes méconnues à cette méga star qui est Goscinny, qui est un homme? Vous avez commencé par refuser. Pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé à Goscinny? C'est d'abord une histoire d'amitié avec la fille de Goscinny, Anne Goscinny.
C'est même réellement un coup de foudre d'amitié avec Anne Goscinny. On s'est rencontrés, elle avait aimé mes bandes dessinées et elle m'a demandé si je ferais son père en bande dessinée. Et je lui ai répondu malheureusement que non, parce que je travaillais plutôt sur des portraits de femmes. C'était plutôt mon objectif de travailler un peu sur les clandestines de l'histoire, revisiter l'histoire à travers des femmes qui l'ont marquée, mais qui n'ont pas été gardées dans les livres d'histoire. Et puis, bien que Goscinny, évidemment, moi, ça me touchait de près parce que c'est le père fondateur pour moi de mon métier. Si je fais aujourd'hui de la bande dessinée, c'est probablement grâce à René Goscinny, parce que j'ai lu les toutes premières bandes dessinées, c'était Astérix et Obélix, et puis Lucky Luke, et puis Snow Good, et puis j'ai lu aussi le Petit Nicolas avec Sempé. Enfin, tout ça, évidemment, m'a fondée. Et je lui ai malheureusement dit non dans un premier temps, et puis j'étais très gênée, j'ai senti qu'elle était un peu vexée, on s'est revus, et surtout, moi, j'avais lu tous les livres d'Anne, qui est une auteure de romans, une romancière remarquable. Et je voulais lui faire dédicacer ses livres, en fait. Et donc, on s'est revus pour ça. Et puis là, elle m'a raconté sa vie à elle, qui est extrêmement romanesque. Et là, ça m'a paru évident. Mon héroïne, c'était elle. Et c'était à travers les yeux de cette fille orpheline, parce qu'il faut savoir qu'elle a perdu son père à 9 ans et quelques années après, elle a perdu sa mère. Elle s'est retrouvée, voilà, orpheline, de porter quand même son héritage d'Astérix sur les épaules, mais sans parents. Et j'ai trouvé ça extrêmement touchant, cette fille tellement bouleversante, intelligente, qui écrivait si bien. Et voilà, ça c'était ma clandestine de cette histoire-là des Goscinny, c'était Anne.
Et donc, cette biographie de René Goscinny est en fait un récit croisé entre la vie de Goscinny racontée à la première personne, qui est coloriée en bleu, et puis vos échanges avec Anne qui vous raconte son père, son Goscinny, dans des pages plus jaunes. Et en effet, on voit que ce livre est d'abord une histoire d'amitié.
C'est moi Laurel, c'est toi Hardy, c'est toi le gros et moi le petit.
C'est toi Laurel, c'est moi Hardy, et nous sommes de bons amis.
Quand l'un y va, l'autre le suit, toujours ensemble, toujours unis.
On se dispute, mais qu'est-ce qu'on rit, nous sommes Laurel et Hardy.
Quand je fais une grosse bêtise, je me mets vite à pleurer, parce que j'ai peur de me faire disputer.
Quand tu fais une grosse bêtise, je me mets vite à crier. Mais je t'ai vite pardonné, je ne suis pas rancunier.
C'est moi Laurel,
c'est moi Hardy,
c'est toi le gros
et toi le petit.
C'est moi Laurel,
c'est moi Hardy, et nous sommes de bons amis.
Je ne vais pas vous demander de chanter, Catel. On vous voit chanter cette chanson de Laurel et Hardy dans le roman
des
Goscinny.
C'est moi, Catel, c'est toi, Anne. oui, parce que alors ça, c'est vraiment ce que j'ai en commun avec René Goscinny, mais aussi avec Anne Goscinny, mais c'est pas la même époque. C'est Laurel et Hardy. Ça a été vraiment la source d'inspiration première de Goscinny, qui allait voir ça au cinéma avec son père. Il a découvert ces deux-là, qui étaient un duo de choc, qui étaient des stars du cinéma, et pour la première fois, on voyait un fonctionner un duo ensemble. Et ça a été son modèle. Il disait d'ailleurs même que pour réfléchir, c'était plus fort que Kant et Spinoza de voir Laurel et Hardy. Ça nourrissait sa réflexion sur la vie. Et moi, j'ai découvert Laurel et Hardy, évidemment, plus tard dans les années 60, comme Anne à la télé, et surtout avec Tchernia qui faisait des émissions, il rediffusait des petits sketchs. Et puis après, il y a eu le dessin animé avec cette chanson. Et voilà, Anne et moi, on était tout de suite sur la même longueur d'onde.
Laurel et Hardy, donc, comme l'une des influences importantes de Goscinny, il y en a évidemment beaucoup d'autres, de Walt Disney au pied nickelé. Il faut peut-être dire, Christian Stabler, que Goscinny était d'abord, on le voit dans le livre de Cattell, que vous avez lu d'ailleurs, était un homme de lettres, mais était aussi un dessinateur, et un bon dessinateur qui savait regarder les dessins, qui savait apprécier, évidemment, d'un premier coup d'œil, et puis qui savait aussi qu'il avait une main assez sûre.
Ah oui, complètement, oui. C'est un illustrateur assez génial. Quand on voit ses livres pour enfants, ou certaines affiches, ou dessins qu'il a fait, c'est très enlevé, c'est très dans le style des années 50, très américain aussi. Mais c'est, oui, il a une maîtrise du dessin qui est assez fascinante. Et d'ailleurs, dans le livre de Cattell, elle republie des caricatures qu'il a fait dans son enfance, enfin son enfance, ancienne adolescence plutôt, à la fin de la guerre. Et c'est très très juste, quoi.
Caricatures d'Hitler, de Staline,
notamment,
de Churchill.
Oui, de d'acteurs de cinéma aussi. Il y a quelques planches qui sont magnifiques, quoi.
Alors ces planches, on avait pu les voir il y a 2 ans à l'exposition qui avait eu lieu au Musée d'art et d'histoire du judaïsme sur Goscinny. On a aussi eu déjà un certain nombre de biographies de René Goscinny que vous avez évidemment lues, Cattell, pour préparer aussi ce livre. On pense à celle de Marie-Ange Guillaume, on pense à celle de Pascal Horry.
José-Louis Bocquet.
Qu'est-ce que vous aviez envie, en vous plongeant là-dedans, de découvrir ou de mettre en avant qui était peut-être moins connu?
Alors moi, je n'avais pas de préjugés, je n'avais pas d'avis au départ, je ne connaissais pas tellement l'histoire de René Goscinny, je l'ai découverte au fur et à mesure, et surtout j'ai eu la chance avec Anne, son mari Aymar du Châtenay, qui tient l'Institut René Goscinny, m'a quand même proposé d'utiliser, quand je lui ai demandé quelques interviews de Goscinny, il m'a fait envoyer à peu près 1000 pages d'interviews retranscrites qui avaient été collectées durant toute sa vie, ce qui fait que le travail a considérablement changé pour moi. Je ne savais pas trop comment aborder ce sujet si difficile. Comment raconter moi, avec mes petits moyens, l'histoire d'un génie de l'écriture. Et voilà, qui me met à disposition ces pages, et j'ai pris des semaines, des mois, à mettre bout à bout des morceaux de phrases pour arriver à reconstituer un puzzle de sa vie, comme ça, avec ses propres mots. Ce qui fait que c'est lui-même qui se raconte. Il se raconte un chapitre sur deux, du début à la fin, et avec son ton et son humour à lui. Et puis, il y a des chapitres où Anne raconte, me raconte à moi, ce qu'il occulte. Parce qu'il y a des choses dont il ne parle pas. Par exemple, la Shoah, qui a été son traumatisme d'enfance qui le poursuivra toute sa vie, finalement. C'est quelque chose dont il ne parle pratiquement jamais.
Il l'a mentionné une fois.
Une fois, il s'est fâché quand on l'a traité de chauvin par rapport au personnage d'Astérix. Il a dit, comment moi, chauvin, qui n'ai même pas grandi en France et qui ai perdu toute ma famille en camp de concentration. Donc ça l'a foutu en colère, évidemment. Mais sinon, c'est quelque chose qu'il n'a jamais développé et sur d'autres sujets, pareillement. Donc c'est Anne qui m'a apporté ces compléments d'informations avec des documents, notamment les documents de la guerre, et des documents aussi de ses dessins que j'ai pu publier. Donc le mettre en situation, lui, d'enfant, d'adolescent, de jeune homme qui dessine et qui dessine ses propres dessins.
Et on découvre en effet beaucoup de choses sur Goscinny. Qu'est-ce qui vous a plu ou marqué, Christian
Stabler?
Ce que
je voulais dire, c'est qu'effectivement, le Cattell a très bien réussi à rendre les parties où elle raconte Goscinny. On a l'impression que c'est lui qui l'a écrit, qui le raconte, effectivement.
C'est vraiment lui.
C'est vraiment lui, mais la mise en forme est très très fluide et elle coule de source, comme si c'était... Ouais, comme s'il avait vraiment lui scénarisé ces chapitres-là, quoi.
Alors, on va continuer un peu dans cette jeunesse d'Astérix qui plonge dans la vie de Goscinny, avec un moment important quand même, puisqu'on a dit qu'il avait grandi en Argentine, il est allé aux États-Unis pendant un moment, et aux États-Unis, il a rencontré plusieurs bandes, mais une première bande d'Américains, qui sont les futurs fondateurs du journal MAD, alors Harvey Kurtzman, Will Elder, Jack Davis. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, Christian Stabler, qui sont ces auteurs, et pourquoi ils vont être importants pour Goscinny et pour son futur et pour son travail futur?
Alors, si je me souviens bien, il crée MAD en 1952, et en fait c'est suite aux États-Unis, il y a eu le Comics Authority Code qui a une levée de boucliers contre les super-héros, les bandes dessinées de terreur qui étaient florissantes à cette époque-là, et donc il y a une levée de boucliers, la censure a joué, et donc plein d'auteurs ont été un petit peu squeezés et certains, dont Harvey Kurtzman, ont décidé de lancer leur propre magazine sous une autre forme, ne plus s'adresser aux enfants justement, parce que c'était ça le problème évidemment. Et donc faire un journal plus pour adultes, et ils ont créé MAD. René Goscinny les a rencontrés au moment où ils allaient créer MAD. Et donc une amitié s'est liée entre eux, et effectivement, je crois que Harvey Kurtzman, dans le cahier de la bande dessinée qui est consacré à René Goscinny, dit que, en fait, René Goscinny lui doit tout, évidemment, c'est une forme d'humour. Il revendique, en fait, que c'est lui qui a créé René Goscinny, quoi. Ça, c'est quelque part, c'est peut-être un peu vrai.
Et l'autre bande que rencontre Goscinny aux États-Unis, c'est celle d'auteurs belges, français, emmenés par Jigé.
Oui, totalement par hasard, en revenant d'un voyage en Europe, sur le bateau, il rencontre un certain Pierre de Montmarson qui vend des fromages et qui est un pote de Jigé, qui lui s'est installé dans le Connecticut pour faire fortune aux États-Unis. Jigé est déjà connu, il fait Jerry Spring et bien d'autres choses, c'est un grand dessinateur. Et voilà, il accroche immédiatement avec Goscinny. Il lui explique d'ailleurs qu'il signe, il s'appelle Joseph Gillin, qu'il signe JG, enfin, pour dire, parce que ce sont ses initiales, et Goscinny lui dit, moi, c'est RG. Mais dites-moi, René Goscinny, c'est plus simple. Et puis, le grand ami de JG, c'est Maurice, donc il rencontre Maurice, il passe, et Maurice aussi, lui, est déjà assez connu parce qu'il fait Lucky Luke. C'est pas du tout le même que celui qu'il va devenir quand Goscinny mettra sa patte et le rendra un peu plus amusant.
Et puis le dessin va aussi beaucoup évoluer.
Tout va évoluer, mais pour l'instant, c'est encore un cow-boy un peu rustre, mais comme ça marche bien, Maurice a un peu d'argent, il vit dans une chambre près de chez Goscinny à Manhattan. Et surtout, il a une télé à l'époque, on n'avait pas de télé, il y avait que les riches. Et donc, ils passent leur temps à regarder la télé, à fumer des cigares ensemble, à boire des coups. Et vraiment, ça soude une amitié.
Et c'est là aussi, c'est dans ces années, donc, dans ces années 50, que Goscinny abandonne peu à peu le dessin, en rencontrant d'abord Maurice, puis Uderzo, qu'il rencontre en 51. Il abandonne le dessin pour devenir scénariste.
Voilà, pas de chance pour lui. Il est quand même un dessinateur doué, habile. Il rencontre juste des génies du dessin. Jigé, Maurice, Uderzo, il rencontre Sempé aussi, Franquin
oui.
Il travaille avec tous les grands dessinateurs de cette époque-là, et donc il renonce petit à petit. Il avait quand même fait une bande dessinée qui s'appelait Dick Dix, qui était histoire d'un détective, qu'il a eu beaucoup de mal à placer. Il a fini par arriver grâce à Trois Fontaines, qui avait monté une agence en Belgique et en France, la World Press, qu'il a fait travailler quelques années. Il arrivait à placer ses bandes dessinées et ses dessins un petit peu laborieusement à droite et à gauche pour se consacrer petit à petit vraiment à l'écriture et travailler en duo, justement, Laurel et Hardy, avec tous ces binômes qui l'intéressaient, que ce soit Sempé, Uderzo, Maurice, Franquin et tant d'autres.
Un Trois Fontaines qui lui commandait parfois des choses assez étonnantes. J'ai découvert dans votre livre, par exemple, un moment qui lui a demandé d'écrire des scénarios à partir d'un stock d'illustrations qu'il avait acheté et qu'il fallait maintenant mettre
le monde à l'envers, voilà.
En récit. Alors,
des dessins, et à partir des dessins qu'il avait achetés en solde, il fallait que Goscinny invente une histoire.
C'est presque de l'Oubapo, de l'ouvreur de bande dessinée potentiel.
Ah, complètement, c'était tout et n'importe quoi, mais c'était un homme d'affaires, Georges Trois Fontaines, donc il n'était pas trop dans la recherche artistique.
La bande dessinée, est-ce un art, un snobisme, une industrie?
La bande dessinée, ça signifie surtout un moyen d'expression qui me convient parfaitement, qui a ses possibilités et ses limites, mais qui, en ce qui me concerne, moi qui me spécialise dans l'humour, qui a une chose extraordinaire. Vous pouvez faire un tout petit gag, et le lecteur peut s'y attarder aussi longtemps qu'il le veut. C'est-à-dire que le rythme est imposé par le lecteur lui-même, ce qui est un énorme avantage par rapport à tous les arts du spectacle, que ce soit le cinéma, la télévision ou le théâtre, où c'est l'auteur qui impose un rythme et qui ne peut pas parfois utiliser un gag parce qu'il est trop léger, il est trop petit, il passe trop vite. Chez nous, c'est le lecteur qui décide ça.
France Culture, le rayon BD, Victor Massé de l'Épinay.
Catel, vous devez connaître cet archive puisque vous avez tout écouté, tout lu, retranscrit des interviews de Goscinny dont on entend la voix. J'ai choisi cet archive parce que je trouvais ça très intéressant de voir que Goscinny savait ce qu'il faisait, au sens où il était, sans doute le prétendre, un peu un théoricien de la bande dessinée. Il s'intéresse à cette question de rythme, qui est une question aujourd'hui. On écrit des pavés sur le rythme dans la bande dessinée, le rythme dans l'œil du lecteur. Mais il a bien conscience de ce qu'il fait, de comment ça marche. C'est vraiment un créateur méticuleux qui a tout compris.
Oui, et puis très maniaque dans son travail. Mais ça, c'est pas tout de suite. Hein. C'est au moment de Pilote, quand il maîtrise son affaire. Parce qu'il a fait beaucoup de galops d'essais avant qui n'ont pas forcément été toujours brillants. C'est pas venu d'un coup comme ça, comme on pourrait imaginer qu'un génie nous tombe dessus avec la potion magique. Mais c'est des années de travail. Et d'ailleurs, il se définissait lui-même comme un besogneux de la futilité. Il se voyait comme un Stakhanovitch du travail, un vrai travailleur, et voire besogneux.
Et alors cet art du gag qui est au centre et au fondement d'Astérix, Christian Stabler, il marche évidemment aussi. On ne peut pas terminer une émission sans évoquer Uderzo quand on parle
d'Astérix, ce serait difficile.
Qui est évidemment le complément essentiel à Goscinny pour Astérix et pour le succès de cette aventure. Uderzo qui est un dessinateur absolument
complètement incroyable, malheureusement sous-estimé, je trouve, parce que à la fois à l'époque où il lance effectivement Astérix dans Pilote, il réalisait 5 planches par semaine, ce qui est absolument incroyable. Quand on voit la qualité des planches, c'est sidérant, quoi. On se rend compte qu'il devait faire des crayonnés très très succincts et passer directement à l'encre. C'était pas possible autrement, et c'est d'une qualité complètement sidérante. Et en même temps, quand on voit certaines planches, on sent la maîtrise du mouvement, il a une façon d'exagérer les gestes, et il y a le sens de la caricature, en même temps il y a le dessin réaliste par moment. Même dans Astérix, c'est des moments où il arrive à rendre des ambiances très sombres, en jouant sur les petits traits, il a une maîtrise du dessin réaliste aussi, donc c'est assez étonnant.
Uderzo, qui était donc bien sûr le complément, l'alter ego de Goscinny dans cette histoire d'Astérix. Goscinny qui fonctionnait souvent par duo, on pense évidemment à Maurice qu'on a évoqué, on pense aussi à Sempé et au petit Nicolas. Cattel, on fait souvent le rapprochement entre Sempé et Goscinny pour le petit Nicolas, et avec le travail que vous menez avec Anne Goscinny autour du monde de Lucrèce, dont le 4e tome va sortir très prochainement.
Oui.
Lucrèce, c'est une jeune fille d'aujourd'hui.
C'est la grande sœur du petit Nicolas, dit la presse. Alors nous, ça nous va très bien, parce qu'évidemment, c'était très difficile, audacieux, et ça faisait très peur à Anne, moi aussi d'ailleurs, de se confronter à l'ombre de Goscinny et Sempé. Il fallait être à la hauteur, et puis on a voulu le faire, parce qu'on s'est dit, tant pis, notre amitié est plus forte que la critique qu'on pourrait avoir. Et on a créé ce monde de Lucrèce, et en fait, il a eu un accueil incroyable, et ça se passe très bien, et on est dans une affaire non seulement d'amitié, mais de création maintenant.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci Christian Stabler. Merci
à vous.
Cattel. Merci beaucoup.
Alors pour cette rentrée placée sous le signe d'Astérix, plusieurs choses à vous signaler. Tout d'abord, aux éditions Albert René, un livre d'hommage collectif, Génération Astérix, avec 60 auteurs de bandes dessinées qui livrent leur Astérix, toute génération et tout style confondu, de Manara à Anouk Ricard, en passant par Bastien Vivès, Emmanuel Guibert, Serge Clair ou Julie Marot. Signalez aussi une exposition, ce sera à la BNF à Paris, lors des prochaines journées du patrimoine, du 20 au 22 septembre, Astérix le Gaulois aux origines, avec l'ensemble des planches originales de la première aventure d'Astérix. Je peux vous dire aussi que sur France Culture, une fiction Astérix est en préparation, ce sera La Zizanie, réalisée par Cédric Aussire, enregistrée en direct et en public le 23 novembre. On en reparlera. Et évidemment, le nouvel album signé Ferrier Conrad et la fille de Vercingétorix qui sort le 24 octobre.
Un Jules César,
un Goscinny,
un Uderzo,
un Toutratis,
de beaux barbares,
et chaque fois,
de grosses bagarres.
Je l'ai enfin mon sanglier,
je vais pouvoir manger.
Oh.
Le Rayon BD s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission était préparée avec Pascaline Bonnet, réalisée par Marie-Laure Ciboulet, avec à la technique Dalia. La semaine prochaine, je recevrai un Helvète, Alex Baladi, qui sort chez Atrabil Robinson Suisse et sera l'invité d'honneur du festival BDphile de Lausanne. Mais tout de suite, sur France Culture, vous retrouvez Aurélie Luneau pour le magazine de l'environnement de Cause à Effet.